Je veux souligner, parce que cela m'a vraiment frappé, l'humanité du personnel pénitentiaire. Dans cet univers de violence et de désespérance, leur gentillesse, leur attention, leur respect tranchait avec l'atmosphère ambiante. Il y avait même une certaine douceur dans ce qu'ils faisaient, et surtout dans la manière dont ils le faisaient. Jamais je n'ai vu ou ressenti la moindre familiarité ou la plus petite vulgarité de sentiment. Ils étaient attentifs à ne pas blesser par une remarque déplacée ou une attitude inappropriée. Jamais. Ils n'ont pénétré dans ma cellule sans frapper préalablement pour me prévenir, alors que bien sûr ils disposaient des clés. Ils n'étaient pas obligés d'agir ainsi. Quand ils s'adressaient à moi, ils veillaient à utiliser le titre de président, sans aucune affectation, avec un naturel que je n'avais pas si souvent constaté à l'extérieur. Ils respiraient la joie de vivre, sans marquer la moindre exaltation ou la plus petite excitation. Leur entente avec les policiers de ma sécurité était spontanée et facile, dans cet univers clos où ils étaient chez eux. Il aurait pu y avoir des oppositions, voire des conflits de frontières. Ce ne fut jamais le cas. Ces contacts humains sincères et profonds étaient importants dans ma situation. C'était un véritable plaisir de leur dire bonjour dès le petit matin, de leur souhaiter une bonne soirée une fois leur journée de travail terminée, d'avoir une occasion de partage au moment de la dépose des repas, même si je ne prenais pratiquement rien. Il s'agissait de brefs moments d'échanges simples et heureux. Je connaissais mal cette profession. Ce fut une découverte et même une révélation. Leur métier est aussi utile à la société que difficile. Ils méritent notre respect et à titre personnel, je leur dois d'avoir essayé d'alléger cette épreuve. Je ne les oublierai pas. Ils ont beaucoup compté à un moment particulièrement difficile de ma vie. Je suis conscient que les choses auraient pu être beaucoup plus dures sans leur compréhension. Tous les surveillants qui m'approchaient étaient préoccupés par ma situation et par mon bien-être. Je leur étais très reconnaissant de ces marques d'attention désintéressées. Ils n'étaient pas obligés de s'en préoccuper. Ils n'avaient par ailleurs rien à en attendre. Je leur dois ma première promenade dans la cour réservée aux personnes à l'isolement. Inquiet de me voir enfermé en ce deuxième dimanche, sans visite autorisée, à l'exception du prêtre, ils m'incitèrent à sortir, ne serait-ce que quelques minutes, pour m'aérer. Je n'en avais guère envie, mais je n'ai pas voulu les blesser. À 17h, je quittais donc ma cellule entourée des 6 gardes qui étaient affectés à ma protection. Nous n'eûmes pas à parcourir un long chemin. Il fallait juste descendre un escalier, franchir un couloir, passer 2 lourdes grilles et nous étions arrivés. La première vision était assez rébarbative. La cour n'en avait que le nom. 14 pas en longueur, 8 pas en largeur. Il n'y avait pas matière à pratiquer la course à pied. Le toit était recouvert de barbelés roulés en cercle ininterrompu. Une double rangée de grilles serrées et épaisses reposait juste en dessous. C'était si dense que je voyais à peine le ciel. Les murs couverts de salpêtres et décrépits ne faisaient guère plus envie. Il faisait froid ce jour-là. Je suis resté un petit quart d'heure à deviser avec 2 de mes surveillants. Nous avons parlé de nos familles. L'un d'entre eux m'a confié avoir eu 23 ans en 2007 au moment de mon élection à la présidence de la République. « J'ai voté pour vous, et je regrette que vous n'ayez pas été réélu. Cela m'a fait plaisir. La politique était là, même en prison. J'avais vite fait le tour de cette cour qui n'en avait que le nom. Je remontais dans ma cellule, un peu transi, et surtout si heureux que ce dimanche touche à sa fin. Demain serait un autre jour. Je retrouverai Carla après cette coupure. Ainsi va la prison, où la seule façon de vivre est d'espérer la rencontre du lendemain. Seule cette perspective permettait de s'échapper de la triste monotonie du jour. Je profitais de cette fin d'après-midi pour cantiner. C'est le mot utilisé pour ceux qui font des achats alors qu'ils se trouvent en prison. Cela permet pour les uns d'améliorer le quotidien, pour les autres comme moi, de subvenir à la totalité de leurs besoins en nourriture comme en boisson. J'avais beaucoup d'espoir dans le résultat de l'audience de remise en liberté. Je ne suis pas superstitieux, mais j'y pensais. Je ne souhaitais donc pas disposer de réserves en provision qui me permettent de vivre une trop longue prolongation de ma détention. Je voulais juste avoir le nécessaire pour passer le moins inconfortablement possible ma troisième et, je l'espérais vivement, dernière semaine à la santé. Ne souhaitant ni ne sachant cuisiner sur la petite plaque chauffante de ma cellule. Je me contentais depuis mon arrivée de laitage, de barres de céréales, d'eau minérale, de jus de pomme et de quelques douceurs sucrées. C'était en vérité le minimum. Je me préoccupais surtout du crédit encore disponible pour le téléphone de ma cellule. Chaque détenu devait veiller à payer toutes ses communications. Et même, avec un usage raisonnable, voire modéré, compte tenu du peu de numéros disponibles et autorisés à appeler, l'addition montait très rapidement. Je voulais à tout prix éviter que mon compte soit épuisé et avec lui la possibilité de parler à Carla et aux enfants. C'était une préoccupation constante. Je remplissais donc le formulaire prévu pour le cantinage en n'omettant pas d'inscrire mon numéro d'écrou en haut de la page prévue à cet effet. Je notais minutieusement les références en essayant de ne pas faire d'erreur, tant ces dernières étaient nombreuses. Il y avait une grande étendue d'articles proposés, y compris des produits halal et cachers. Les prix étaient chers, beaucoup plus chers qu'à l'extérieur. Je pensais avec ironie qu'il s'agissait presque d'un abus de position dominante. Les détenus n'avaient pas le choix, excepté au moment des fêtes de fin d'année, les familles ne pouvaient apporter de colis. Le seul moyen de faire ses courses résidait dans l'accès à la centrale d'achat de la prison. En revanche, le délai entre la commande et la livraison en cellule était assez rapide. Dès le lendemain, j'étais livré. Je m'empressais de ranger et d'agencer mes nouvelles provisions. Dans un espace clos et étroit, l'organisation devenait un sujet central pour préserver un espace de vie tout juste décent. Carla me montra comme un clin d'œil amusant la copie d'une photographie qu'elle avait trouvée sur les réseaux sociaux de la façade de la maison de Serge Gainsbourg. Celle-ci, comme on a pu souvent le voir, est entièrement recouverte de graffitis de toute nature, dont la plupart rendent un juste hommage à ce génie de la composition et de l'écriture. La variété française lui doit quelques-uns de ses plus beaux standards. On peut aimer ou pas l'homme. Le talent du compositeur, comme celui de l'auteur, est assez peu contestable. Or, sur la porte d'entrée de la maison était inscrite en immense lettres blanches le slogan « Free Sarko », avec un large cœur de la même couleur en dessous. Ben, cela m'a fait plaisir. Et surtout, cela m'a fait sourire. Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé l'ancien propriétaire des lieux, mais j'aimais l'idée, dans ma situation si singulière, d'être associé à celui avec qui j'avais apparemment peu en commun, même si j'admirais l'artiste. J'ai accroché cette photo au mur de ma cellule, au-dessus du petit bureau que j'utilisais pour écrire. Je pouvais ainsi la contempler souvent dans ma journée, l'espace d'un instant. J'en étais réjoui. Merci donc à cet auteur anonyme qui se reconnaîtra peut-être en lisant ce livre. Pour ces petits moments de plaisir, c'était inattendu. L'annonce de mon incarcération et de ma condamnation avait fait grand bruit à l'étranger, notamment dans la presse internationale. Je n'étais pas, loin de là, le premier dirigeant à qui cela était arrivé. L'un des plus récents et des plus connus fut le président brésilien Lula. Mais dans mon cas, les observateurs étrangers moins politisés et donc moins clivés qu'en France, et qui portaient un regard plus froid sur les événements, manifestaient un grand étonnement devant l'absence d'un quelconque élément qui aurait pu démontrer ma culpabilité. Ils ne comprenaient pas la logique d'une condamnation lourde et d'une détention provisoire sans qu'il y ait le moindre élément matériel. Un financement illégal sans financement identifié après 12 années d'enquête infructueuse leur posait pour le moins question. J'avais par ailleurs reçu de nombreux témoignages de dirigeants étrangers, actuels ou d'anciens homologues qui me témoignaient leur soutien, leur amitié, et pour certains leur incompréhension indignée devant un traitement d'une telle brutalité et d'une si profonde injustice. Le roi du Maroc fut l'un des premiers à me téléphoner. Sa voix tremblait d'émotion alors qu'il évoquait mon incarcération à venir. Il était tout à la fois peiné et stupéfait. Je lui étais d'autant plus reconnaissant que je lui ai toujours voué une admiration profonde. Le président de la Côte d'Ivoire, qui venait d'être réélu, m'adressa nombre de messages et d'appels d'amitié sincères et profondes, tout comme son épouse, Dominique, qui ne cessa d'entourer Carla de son affection. Le président du Rwanda, Paul Kagame, me transmit son indignation vibrante. Tous les dirigeants du Moyen-Orient, mais aussi de nombreux dirigeants européens, anciens et actuels, firent de même. J'étais très touché par tous ces témoignages d'amitié réelle. Il n'y avait pour eux aucun enjeu ou intérêt particulier à se comporter ainsi. Cela illustrait des sentiments authentiques qui avaient été forgés tout au long de ma carrière. Je n'étais plus en fonction depuis longtemps, et pourtant, les liens subsistaient. Il n'avait donc pas été factice, la sincérité et la profondeur, malgré le temps qui avait passé de ces sentiments, étaient réels. Dans la situation où j'étais, beaucoup auraient pu me tourner le dos. Ils ne l'ont pas fait. Et bien au contraire, nos liens s'en trouvèrent renforcés. Ce fut une très bonne surprise et un réel soutien moral comme psychologique. Cette surprise fut plus grande encore pendant mon incarcération lorsque je reçus des demandes de visite d'ambassadeurs envoyés par les plus hautes autorités des pays qu'ils représentaient. L'une d'elles émanait du représentant en France des États-Unis, qui n'était autre que le père du gendre de Donald Trump, un membre de la famille présidentielle parmi les plus proches. Il voulait venir s'entretenir avec moi à la prison de la Santé, en ayant pris soin de préciser à mon ami et conseiller diplomatique Pierre Régent que sa démarche se faisait en plein accord avec la Maison-Blanche et le Département d'État. J'étais particulièrement étonné de cette initiative. J'avais très bien connu les deux présidents Bush, le président Clinton, le président Biden et bien sûr Barack Obama. Mais je n'avais jamais rencontré en tête à tête le président Trump. Cet ambassadeur avait par ailleurs débuté son mandat à Paris par des remarques peu amènes à l'endroit du président Macron. Il avait même fait l'objet d'une convocation au Quai d'Orsay. Il ne s'y était pas rendu, manifestant ainsi son peu de considération pour la méthode comme pour l'auteur de cette invitation. Je ne tenais pas à ce que s'ouvre une polémique inutile. J'étais donc hésitant quant à l'opportunité de le recevoir. Dans le même temps, je ne voyais pas très bien comment j'aurais pu éconduire le représentant de la première puissance mondiale alors que j'étais détenu. Naturellement, je n'en dis mot à personne, mais je me doutais bien que la nouvelle de son initiative finirait par être connue. L'ambassadeur avait d'ailleurs déposé une demande de visite auprès du parquet général qui délivrait les permis de communiquer. Celle-ci fut fixée pour le mercredi suivant. Il avait été prévu qu'il viendrait en même temps que Carla pour ne pas nous priver d'un de nos parloirs de la semaine. Rien ne pouvait nous y faire renoncer. J'étais intrigué par la démarche de l'ambassadeur américain. J'attendais notre rencontre avec une curiosité certaine. Une autre demande émanait du jeune ambassadeur argentin proche collaborateur du fameux et original président Milaï. Le contact avait eu lieu plusieurs semaines auparavant, lorsque mon fils Louis avait obtenu une interview exclusive du président argentin pour son podcast. Ce jeune et ambitieux ambassadeur m'avait fait bonne impression. Je l'avais trouvé compétent, sérieux et sympathique. Assez loin, finalement, de l'impression fantasque que pouvait donner l'administration de son pays depuis l'arrivée de ce nouveau président, qui surprenait par son discours, ses attitudes et sa manière originale de s'exprimer et de gouverner. Tous les observateurs français prédisaient sa déroute aux futures élections législatives, comme ils avaient prévu le désastre pour l'économie argentine. Or, c'est tout l'inverse qui se produisit. Les élections furent un triomphe personnel pour le nouveau président, avec plus de 40% des suffrages pour son parti. Les résultats économiques du pays avaient donc été jugés probants par les Argentins. En fin de compte, c'était ce qui comptait. Ce n'était par ailleurs pas la première fois que les pronostics des médias français étaient battus en brèche. J'avoue avoir fait preuve d'une certaine couardise. Bien qu'étant sensible à sa démarche et à son souhait de m'adresser un message de soutien personnel de son président, j'ai eu peur que Milaï plus Trump, cela fasse beaucoup, à une semaine de l'audience qui devait statuer sur ma demande de mise en liberté. Je souriais intérieurement en me disant qu'il ne manquait plus que la visite d'Orban et celle de l'ambassadeur russe pour que je finisse par risquer la perpétuité. Après deux journées sans nous voir, Carla venait au parloir pour ce premier jour de la semaine. Elle était seule. Aucun de nos enfants ne l'accompagnait. Ma femme souhaitait que nous puissions nous parler tranquillement. Elle avait besoin de ce moment d'intimité. J'étais aussi heureux qu'elle. Nous avions tant à nous dire. Nous faisions abstraction du cadre, de l'environnement, de la prison. Les surveillants, avec leur gentillesse habituelle, protégeaient notre intimité. Ainsi, ils ne regardaient jamais par la petite fenêtre d'observation. Je souffrais d'une petite déchirure musculaire dans le dos à la suite d'un faux mouvement dans ma cellule. Carla m'avait apporté des patchs chauffants qui atténuaient la douleur. Ils avaient été confisqués à l'entrée. On ne doit rien faire entrer en prison. Après quelques minutes de discussion et voyant ma gêne à me déplacer, les surveillants allèrent d'eux-mêmes chercher le pansement. Carla put me le poser. Ce ne sont que des détails, mais ils traduisent l'atmosphère qui régnait et qui allégeait beaucoup la pression propre à la prison. Une nouvelle fois, nous ne vîmes pas le temps passer. Nous étions en pleine conversation sur ce que nous ferions quand je sortirais. Mais que veux-tu pour ton premier dîner à la maison? Où souhaites-tu que nous partions en vacances? Tu as vraiment besoin de te reposer, et moi tout autant, ajoutait-elle. La directrice adjointe venait de frapper à la porte. Il nous restait 5 minutes. Je remontais dans ma cellule, entouré des surveillants. La grille venait de se refermer, Carla me cria. « Surtout, n'oublie pas de me téléphoner ce soir. » Mais comment aurais-je oublié? J'avais encore plus conscience en ce début de soirée que se manquer à ce point était un privilège, une chance, une grâce. Je pénétrais dans ma cellule avec le sourire. Je le lui devais. Tard dans la nuit, car j'avais du mal à trouver le sommeil, je lus « Lettre à un otage d'Antoine de Saint-Exupéry », un chef-d'œuvre d'écriture où je trouvais cette phrase qui me touchait en plein cœur. Le désert n'offre aucune richesse tangible. Comme il n'y a rien à voir ni à entendre dans le désert, on est bien contraint de reconnaître, puisque la vie intérieure, loin de s'y endormir, s'y fortifie, que l'homme est animé d'abord par des sollicitations invisibles. L'homme est gouverné par l'esprit. L'analogie avec la prison était évidente. En prison, il n'y a rien à voir. Rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Il n'y a pas d'alternative pour celui qui refuse d'être brisé par l'épreuve, comme par l'enfermement. C'était devenu mon mantra, essayer à tout prix d'être gouverné par l'esprit et non par le moral du moment, surtout ne pas demeurer enfermé, s'évader par la pensée, se laisser emporter par les forces invisibles. Trouver ces réflexions, au hasard de mes lectures, était un signe qui me montrait clairement la direction à suivre. J'étais conscient de la nécessité de ne pas surinterpréter tout ce qui m'arrivait depuis que j'étais en prison, mais à l'inverse, je devais rester aux aguets pour ne pas manquer l'occasion d'un signal envoyé par les sollicitations invisibles, justement évoquées par Saint-Exupéry. C'est d'ailleurs au cours de cette nuit que je vécus un épisode assez effrayant, du moins avant qu'on ne m'en expliquât les raisons. Vers 3 heures du matin, je fus réveillé en sursaut par un bruit assourdissant qui venait d'envahir ma cellule. Je ne comprenais pas du tout ce qui pouvait bien se passer. Une soufflerie digne de l'enfer s'était déclenchée. Elle aspirait tout dans un vacarme augmenté par l'exiguïté de mon espace vital. Cela dura une bonne demi-heure. Il y avait de surcroît des cris qui provenaient de l'étage qui se trouvait juste au-dessous de celui où je résidais. Je sentais également une odeur de fumée assez forte. Je croyais d'ailleurs en avoir aperçu à l'extérieur. J'étais enfermé dans ma cellule, personne ne bougeait à mon étage, ou à l'inverse, tout demeurait absolument silencieux. C'était vraiment troublant. J'ai pensé à un incendie. Je n'aurais pas aimé rester bloqué dans ce petit endroit. Ce n'est que le lendemain que j'ai appris par les surveillants qui venaient d'ouvrir ma cellule que le détenu qui se trouvait au quartier disciplinaire, en dessous de moi, avait décidé de mettre le feu à sa cellule au beau milieu de la nuit. Les extracteurs de fumée s'étaient mis en marche instantanément, ce qui était rassurant d'un côté et un peu moins de l'autre. À la différence du jour, il se passait toujours quelque chose dans la prison la nuit.